Merci Corinne. Et comme tu as souhaité mettre d'emblée en avant les éditeurs, ce qui me convient tout à fait en tant que journaliste, je le disais hier, mais je le redis aux nouveaux visages qui nous ont rejoints, je trouve que les éditions ont un rôle capital pour mettre dans l'agenda des enjeux de débat public de manière parfois plus efficace, pertinente que ne le font des médias. J'ai pas dit les médias, mais des médias classiques. Donc sans plus tarder, on va rendre hommage à ces éditeurs ou aux représentants des maisons d'édition des ouvrages dont on va parler. À commencer alors peut-être par vous, dont le prénom m'échappe, c'est Evelyne, vous me l'aviez soufflé il y a quelques secondes. Voilà. Donc Evelyne qui nous vient tout droit de Rouen et qui va nous présenter donc les Pure H, les presses universitaires de Rouen et du Havre.
Bonjour. Evelyne Vézine. Donc, je travaille aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et en fait, là, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est la collection Genre à lire, trois petits points et à penser. Donc, il y a une collection dédiée aux études de genre dans notre maison d'édition. Elle a été créée notamment à l'origine par deux enseignantes-chercheuses, une sociologue et une autre qui est enseignante en histoire comparée, donc vraiment deux disciplines très différentes. Et l'idée, c'était vraiment de créer une collection dédiée au genre sous toutes ses formes, dans toutes les disciplines possibles de lettres et sciences humaines, en fait. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une collection qui représente des disciplines qui sont parfois pas beaucoup représentées dans ces études, comme la sociologie du travail, l'anthropologie, le droit, la sociolinguistique. Enfin voilà, plein de disciplines très différentes et qui permettent de mettre un peu au jour des études qui sont assez peu révélé. Effectivement, au niveau des critères d'évaluation, c'est très simple. Lorsque vous soumettez un manuscrit aux presses universitaires de Rouen et du Havre, il est soumis à un comité éditorial qui va envoyer l'ouvrage à deux experts en aveugle. Donc, on a vraiment une expertise scientifique qui est faite, une expertise croisée. Et ensuite, suivant ces expertises, l'ouvrage est validé ou non au comité éditorial. Et ensuite, il va être travaillé par nous, les éditrices, jusqu'à la publication.
Bon, à bonne entendeuse, à bon entendeur, salut. Voilà, on reviendra vers vous tout à l'heure, Evelyne, avec une question transversale dont je réserve la surprise. Celles et ceux qui étaient là hier ont encore peut-être en tête cette question, mais je la laisse en suspens. Poursuivons avec vous, Martine, qui avait la lourde tâche de représenter un autre éditeur, les éditions INED, dont on parlera à travers... Ah, c'est le vôtre. Et mon voisin ne veut absolument pas me le prêter. Donc je vais récupérer le mien. Voilà, celui-ci.
Donc, ça, c'est une autre collection par rapport à la soirée d'hier. Hein. C'est la collection Questions de population. On a cinq collections aux éditions de l'INED. Alors, je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas encore que l'INED est spécialisée dans les questions de population et travaux de chercheurs de recherche en sciences de la population et en démographie. C'est la plus jeune collection des éditions l'INED, question de population. Elle reprend un petit peu le flambeau d'une ancienne collection qui s'appelait Les Cahiers, qui était la collection phare à l'époque, qui avait été créée depuis la création de l'INED en 1945. Mais cette collection se concentre beaucoup plus sur les phénomènes contemporains, les évolutions contemporaines des populations et des sociétés. L'analyse des faits, l'analyse des données, toujours, parce qu'on est toujours dans des données de recherche, de recensement, d'enquête, d'études. Alors, les ouvrages, ça peut traiter deux pays, par exemple, de monographie, ou d'aspects plus restreints, plus précis. Alors, je pense, par exemple, à un ouvrage... qu'on porte beaucoup nos éditions, qui est Précarité en eau, et qui traite des problèmes de difficulté d'accès à l'eau, mais dans les pays du Nord, ce qui n'a pas été traité encore, en tout cas très peu. On parle beaucoup de ce qui se passe dans les pays du Sud, Mais il y a un phénomène assez dramatique aussi d'accès à l'eau dans les pays du Nord. Notre dernier ouvrage, c'était consacré aux représentations de la PMA. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des choses très, très, très larges. Donc, celui-là, le monde privé des femmes, relate un petit peu l'évolution du logement en tant que sphère privée.
Alors, on va y venir tout à l'heure. Voilà. Merci. Je reviendrai vers vous, Martine, pour vous poser à vous aussi la même question. Martine et Evelyne, vous connaissiez, est-ce que c'est-à-dire il y a une connivence, une complicité entre des éditrices qui œuvrent sur les mêmes questions dans le cadre de leurs collections respectives?
En l'occurrence, non. Ça pourrait être le cas dans des coalitions, par exemple.
Donc, parfait. Corinne et moi, on fait le vœu que cette soirée soit le point de départ d'une collaboration fructueuse. Merci encore. On reviendra vers vous. Merci à vous de nous avoir rejoints pour une soirée qui va nous entraîner jusque vers 19h30, heure à partir de laquelle on pourra prolonger les discussions de manière plus informelle autour d'un pot de l'amitié qui sera de l'autre côté. Donc, pour les personnes timides qui n'osent pas prendre la parole, vous pourrez souffler vos questions aux intervenants. Vous aurez auparavant bien sûr la possibilité de poser des questions, mais là je vais user sans abuser d'un privilège, le privilège du lecteur que j'ai été. J'ai lu les contributions des uns et des autres, les ouvrages dans lesquels s'insèrent ces contributions, et donc je vais user de ce privilège, de cette chance pour un lecteur dont vous rêvez sans doute, c'est de pouvoir discuter avec des auteurs en vrai. Mais j'userai de ce privilège sans en abuser. Et en ayant aussi ce souci, parce que de montrer que malgré l'extrême diversité des sujets dont vous avez traité, l'extrême diversité des profils disciplinaires que je préciserai au fil des interpellations dont vous allez être l'objet. Je précise déjà que l'on a un sociologue ici à ma gauche, un juriste, et puis, vous ne l'avez pas dit, hein, une généticienne littéraire. Ça demandera quelques mots d'explication. Donc, des représentants d'univers extrêmement différents qui traitent de sujets très différents et qui, en même temps, peuvent possiblement, c'est mon espoir, on va essayer de le faire au cours de cette soirée, converger. Avec peut-être d'ailleurs, pour commencer, une première question que je vous lance à tous les trois. C'est si vous deviez définir ce mot qui se retrouve dans chacune de vos contributions et qui déjà est un point de convergence, à savoir le mot de genre. Si vous deviez le définir, en rappeler le sens, on sait tous ce qu'est le genre tant qu'on ne nous demande pas de le définir. Comme dit, pour paraphraser saint Augustin qui parlait du temps. Le temps, je sais ce que c'est, tant qu'on ne me demande pas de le définir. Quand on me demande de le faire, eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de le définir. Il en va pour moi du temps, comme pour le genre, d'où mon interpellation première. Comment vous nous éclaireriez sur le sens, les enjeux de cette notion, de vos points de vue respectifs? Ah ben voilà, c'est le voilà. On peut commencer par vous, le juriste Benjamin Moron-Pouèche, qu'il faut saluer d'autant plus que vous venez en provenance directe de Lyon, où vous enseignez, vous êtes professeur de droit à l'université de Lyon 2. Donc, si vous deviez en quelques mots définir la notion de genre, comment vous y prendriez-vous?
D'abord, j'adresse mes sincères remerciements à l'assistance et aux organisateurs et aux gens qui ont préparé tout cela. Grand merci, ça fait plaisir de se retrouver ici, de voir l'assistance grandir après quelques années. Alors, il me semble que dans le champ du droit, en tout cas, parce que chaque discipline peut avoir des sens différents, mais dans le champ du droit, on a tendance de manière historique à opposer le genre à une autre notion. Cette autre notion, parfois, disons historiquement, c'était le sexe, et de plus en plus, le genre s'opposerait plutôt aux caractéristiques sexuées. Donc ça, c'est une première acception du genre où le genre est construit. Si je reprends la définition de la Convention d'Istanbul, qui est une convention de lutte contre les violences domestiques et les violences conjugales, qui est la première à avoir vraiment fait un effort de définition du genre en 2011, dans cette convention dite d'Istanbul, on définit le genre comme le rôle, les comportements jugée appropriée pour les hommes et les femmes. Alors, j'étendrai un peu la définition en disant les hommes, les femmes et éventuellement les personnes intersexuées. Mais donc, le genre, vous voyez, se construit par rapport à un donné biologique. Donc, ça, c'est la définition que l'on trouve aujourd'hui dans ce texte international. Mais pour autant, vous avez d'autres textes qui parlent, par exemple, de violence de genre ou de stéréotypes de genre. Et là, je pense qu'on est sur une approche qui, me semble-t-il, renvoie plus à des questions de rapport de pouvoir que les sociologues et les gens en sciences politiques maîtrisent davantage. Mais ça, pour l'instant, ça pénètre pas encore au niveau de la définition dans le champ du droit. Donc nous, classiquement, on distingue plutôt une approche un peu plus individuelle et une approche plus holistique ou relationnelle, dirait Irène Théry, du genre. Voilà pour le champ juridique.
Parfait. En aparté avec Michel Bozon, donc à ma gauche, Michel Bozon, sociologue, directeur de recherche à l'INED. Je me questionnais sur le rapport du droit par rapport aux sciences sociales et Michel Bozon de me dire mais non, le droit n'est pas une science sociale, etc. Et néanmoins, Michel Bozon, sociologue, est-ce que vous vous retrouvez dans l'approche juridique comment du genre ?
Micro. Voilà, parfait. Merci de mutualiser le micro.
Il y a des points communs. Moi, je dirais que le genre, ça a d'abord été le parti de prendre le point de vue des femmes en premier, hein, face.
Excusez-moi.
Oui, pardon.
Sous le menton et ne pas. Voilà.
D'accord.
Merci.
Ça a été d'abord le parti de prendre le point de vue des femmes en renversant un point de vue implicite qui était toujours androcentré, c'est-à-dire vu du point de vue des hommes. Alors on peut élargir ça en effet au thème de sexualité, hein, au-delà des hommes et des femmes, des sexes, inclure les sexualités. Bon, ceci dit, il y a deux autres acceptions. Hein, une sociologue en voit même quatre, hein, Laure Bérény, dans son manuel sur les études de genre, mais je vais le ramener à deux pour simplifier. Il y a l'idée d'une dichotomie des représentations du masculin et du féminin, alors qui parle plus aux spécialistes des représentations, la communication, la littérature, le fait qu'ils sont représentés de façon très dichotomique, avec des qualités, des valeurs, des symboles qui leur sont associés à chacun. Et puis une représentation plus sociologique, comme vous suggériez, ou de sciences politiques, qui prennent le genre comme un rapport de pouvoir entre les sexes et les sexualités. Hein, un rapport social, en somme, en intersection avec d'autres rapports sociaux, d'autres rapports de pouvoir qui peuvent être extrêmes. Et dans ce cas-là, on parlera de domination.
Daniel Constantin, ce sont deux hommes qui viennent de s'exprimer. Qu'est-ce que le point de vue, non seulement de la femme que vous êtes, mais également de la femme originaire ? Vous l'avez souvent indiqué dans nos échanges en amont pour que je n'y revienne pas. Originaire du Québec, donc d'un point de vue excentré, géographiquement parlant, pense de ces approches du genre. Je m'empresse de préciser que vous êtes chercheuse associée à l'Institut des textes et manuscrits modernes, une unité mixte du CNRS et de l'École normale supérieure.
Oui, j'adhère.
Sous le menton.
Ça va. J'adhère à vos définitions, mais plus qu'une définition, j'ouvrais le volume qu'on a publié et
bonne référence.
La collection Genre à lire et à penser définit le concept. Alors je me suis dit, tiens, puisqu'on fait partie de la collection, c'est le concept de genre ou construction historique et culturelle des identités sexuées et des hiérarchies entre les sexes. Donc construction, je pense que c'est le mot clé. Ouais. C'est le genre est une construction, hein, ce n'est pas quelque chose d'inné, historique et culturel, et moi étant littéraire, culturel, et là j'irai plus dans le détail, même dans le symbolique et langagière pour moi que la construction. Et quand on parle de hiérarchie entre les sexes, vous avez tout à fait raison, ça a commencé avec le féminisme. Toutes les études de genre on commence dans les études littéraires, c'était les études féministes qui étaient vraiment le bateau amiral. On commençait par étudier les textes d'un point de vue féministe et éventuellement, mais là, les queer, on a rajouté les queer, LGBT, Q+, et tout. Et là, la
famille grandit.
Les études se sont élargies.
On reviendra sur le livre, mais auparavant, Benjamin, voilà, souhaitait...
Je voulais faire une toute petite réaction à chacun des deux propos sur les origines du mot genre. En sciences sociales, c'est vrai que c'est exactement les femmes qui l'ont... ça a été construit pour penser différemment, sortir d'androcentrisme. Mais en revanche, dans les sciences médicales et psychologiques qui sont vraiment à l'origine du mot genre, c'est d'abord les questions trans et intersexes. Et il y a ensuite une forme d'instrumentalisation. On oublie les origines trans et intersexes. Et aujourd'hui, c'est un peu paradoxal quand on vous dit les trans ont détruit la notion de genre. Ben, en fait, ils l'ont créée. Et la brève réaction que je voulais faire sur la construction, il ne faut pas oublier que la notion de sexe ou de caractéristiques sexuelles, même, elle est construite et d'une société à l'autre, les critères changent, les catégories changent. Donc, en fait, les constructions, elles sont un peu partout.
Et on verra avec vous tout à l'heure, Benjamin, ce que ça implique en termes d'aspiration, de revendication quant à la mention du genre dans les documents administratifs avec lesquels on doit vivre. C'est l'objet de votre propos. Mais si vous le voulez bien, on va commencer avec le regard du sociologue, finalement, qui croise celui du juriste et de la littéraire, pour faire vite, de la généticienne de la littérature. Avec vous, donc, Michel Boson, ce qui nous ramène donc à cet ouvrage, le monde privé des femmes, genre en... Alors, je lis aussi le sous-titre est important, presque aussi important, genre et habitat dans la société française. Et alors, vous y avez contribué, comment, avec une contribution qui aide à remettre en perspective historique un certain nombre de sujets, qui se penche aussi sur les usages, les pratiques dans l'espace domestique. Mais auparavant, puisque vous avez contribué et que nous n'avons pas ici les directrices d'ouvrage, je compte sur vous pour comment nous aider à préciser l'objet global du projet du livre. Et peut-être ce que j'en ai compris en première approche, c'est que c'est un livre qui comble paradoxalement, Martine m'observe, elle guette ce que je vais dire, mais il me semble que curieusement, alors qu'il est de publication relativement récente, 2018, mais il comble un vide en ce sens où, c'est ce qu'on découvre à la lecture de ce livre, les féministes et ou les tenants des gender studies ont tardé ou n'ont pas manifesté un intérêt pour le logement, pour l'analyser au prisme du genre. Elles se sont intéressées au rapport homme-femme dans le cadre du travail, au regard de la sexualité, mais pas du logement. Et donc, l'ambition, déjà, pour commencer, de ce livre, c'est de combler un vide. Est-ce que je simplifie à outrance, Michel Boson ?
Oui, mais c'est aussi combler un vide.
Oui, je résume à outrance. Comment interpréter votre oui ? Oui, c'est ça.
Oui, c'est... oui, ça veut dire oui, j'adhère au propos général.
Voilà. Hein.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a, a pas seulement le logement ou le genre, c'est-à-dire que dès le départ, on élargit par rapport au logement, c'est-à-dire qu'on va vers l'habitat, la sociabilité, le monde privé, donc c'est bien plus ambitieux que simplement le logement. Et si on entre dans le détail ensuite, ça veut dire qu'on aborde le travail domestique et le travail parental. Là, le genre peut entrer tout de suite. La gestion du budget, l'aménagement du logement, la propriété, l'accès à la propriété, la mobilité résidentielle, la sociabilité de voisinage, l'espace public environnant. Donc, on est sur quelque chose de très large. C'est un parti pris des auteurs. Par ailleurs, il y a l'idée de décloisonner par rapport à l'espace professionnel, parce qu'on tend à séparer l'analyse du logement et de l'espace professionnel, et on voit bien qu'avec des développements récents comme le télétravail, l'économie numérique,
le micro-entrepreneuriat,
le micro-entrepreneuriat, eh bien, il y a des passages de l'un à l'autre et une influence sur, sur l'habité lui-même.
Oui, oui.
Et puis, il y a un élargissement aussi un petit peu plus modeste, mais vers le domaine de l'intimité, qui a plutôt été traité par ceux qui travaillent sur la violence de genre ou sur la sexualité, mais qui est abordé aussi. Donc, le logement n'est pas qu'un contenant.
Mmh, hein,
là-dedans, c'est une vision beaucoup plus large et le prendre du point de vue du genre, c'est d'abord critiquer l'approche classique du logement par les ménages et de l'habitat. Donc, comme je l'ai dit, prendre le point de vue des femmes d'abord mais certaines contributions d'emblée vont bien au-delà, dans le sens des rapports de genre, de ce qui se passe, ce qui se construit dans le rapport de pouvoir entre hommes et femmes, et même entre les sexualités, puisqu'il y a un exemple qu'on pourrait donner, qui est celui des squats féministes, qui est traité dans cet ouvrage, où on voit que des femmes politisées plutôt anarchistes, autonomes, libertaires, décident de se mettre à vivre dans des espaces non mixtes. Alors c'est pas le titre, c'est femmes féministes, mais on voit à lire le chapitre que c'est plutôt des femmes lesbiennes, voire queer.
Alors, n'allons pas trop vite en besogne dans le détail des choses. Ouais. Je reviens sur ce que vous avez à très juste titre posé, c'est que même si en introduction les co-directrices mettent en avant cette entrée par le logement ou cet intérêt de confronter le logement au genre et vice versa, vous faites très bien de rappeler, et elles le font elles-mêmes, qu'on élargit le spectre. Et d'ailleurs, ça m'évoque, et vous pouvez réagir à quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est très significatif de ce que révèle la démarche, je pense, je ne sais plus quel est le contributeur, à ce contributeur qui montre l'effet de la fermeture de cafés dans les villages sur la vie du ménage. Le résultat immédiat, c'est que les hommes vont faire leur apéritif à la maison, au détriment
J'allais parler de cet exemple, c'est-à-dire qui paraît très paradoxal dans un ouvrage sur le logement, c'est que on analyse la montée de l'apéritif comme dans les milieux ruraux en déclin. En fait, il s'agit d'un milieu rural en difficulté, où les cafés ferment, ils ferment partout, mais également les associations ferment, les collectifs de travail sont de plus en plus éloignés et de moins en moins collectifs. Dans ce contexte-là, on voit se développer bizarrement des sortes d'apéros quotidiens chez des jeunes hommes qui forment une sorte de clan, qui ont réaménagé leur maison avec un salon directement accessible de l'extérieur, où il n'y a pas besoin de prévenir ni presque de frapper à la porte. Et tous les soirs, il y a des apéros qui permettent de constituer un petit clan solidaire, qui se réunissent et tout, et avec lequel les femmes ne sont pas très d'accord, mais elles n'ont pas leur mot.
Alors, pour autant, Michel Bozon, et c'est une autre caractéristique de la démarche que je trouve assez intéressante, c'est que les directrices et les contributeurs s'emploient à trouver le juste équilibre entre un discours qui pointerait les rapports de domination dans l'espace domestique, et puis l'espace domestique comme ressource d'émancipation de ces mêmes femmes. Et je trouve que c'est très... je vous vois opiner du chef.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que si le logement est un lieu qui abrite des situations de domination de sexe ou d'inégalité.
Et de violence.
Et de violence, ça peut être aussi une ressource et un lieu d'appui pour les femmes et pour les minorités de genre et de sexualité. Bon, alors, il y a cet exemple du squat que j'avais pris, hein, bon, donc, où des minorités décident de vivre de façon non mixte en prenant en main le logement, c'est-à-dire en faisant le travail du bâtiment, mais entre femmes, sans cette hiérarchie presque habituelle et qui paraît normale dès qu'il y a un homme qui traîne, hein, bon, dans ce cas-là, et puis d'organiser la vie de cette manière-là, ressources contre des expériences de violence qu'elles ont pu vivre et qui peuvent être aussi dites dans ce cadre-là plus simplement, moyen de reprise de confiance en soi au contact d'autres plus proches, moment de rupture avec l'hétérosexualité, enfin bon, toutes ces choses se passent dans ces squats féministes. Mais un autre exemple, c'est là un petit peu différent, c'est la gestion du budget par les femmes de milieu populaire, qui est également un très bon chapitre où on voit que elles bénéficient d'un pouvoir domestique paradoxal, mais ambivalent. On peut dire qu'elles occupent un poste à responsabilité, entre guillemets, qui leur donne une forme de pouvoir. Par exemple, les hommes doivent leur demander s'ils peuvent acheter un jogging qui coûte 80 euros. Elles disent « Ah, ben, peut-être ce mois-ci ou le mois d'après. »
Oui, c'est le fameux matriarcat budgétaire.
Oui, j'emploierai pas le matriarcat. Mais
d'autres
enfin
le font à votre place dans le livre.
mais cette responsabilité est aussi un fardeau. Mmh. Hein, bon, et de fait, j'emploie pas le mot charge aussi parce que ça a l'air d'être un synonyme de responsabilité. Hein, bon, mais donc c'est un fardeau parce qu'il ne pèse pas sur les hommes. Il existe surtout en situation de pauvreté. Hein, vous verrez que dès qu'on est plus riche, on ne leur donne pas l'autonomie budgétaire. Hein, bon, et ils ne procurent que très peu de bénéfices en réalité, même s'ils correspondent à une compétence qu'on reconnaît aux femmes. Et on voit que ces femmes, en fait, elles ont étudié un petit peu plus que les hommes avec lesquels elles sont. Et de fait, elles ont cette compétence pour le budget, mais elles en tirent peu de choses.
Alors,
en réalité,
à vous entendre et vous rendez bien compte de l'esprit aussi général du livre, on comprend que le livre rend compte de la situation de femmes de milieux populaires ou de classe moyenne, d'où d'ailleurs le clin d'œil au livre d'Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, sociologue. Olivier Schwartz, qui s'intéresse également au monde populaire, aux classes moyennes, et qui est l'auteur, oui, voilà, Martine vient de me le, et qui est l'auteur de la préface. J'aurais plein d'autres questions à vous poser, je vous en poserai d'autres, Michel, mais à ce stade, j'aimerais poursuivre le tour de table. Parmi les questions sur lesquelles on pourra revenir avec vous, et surtout avec vous, Michel Bozon, qui est quand même un spécialiste de la sexualité. On vous doit une sociologie de la sexualité, la co-direction d'une enquête sur la sexualité des Français avec Nathalie Bajos. Voilà. Et vous nous direz tout à l'heure comment finalement les pratiques ont évolué en fonction de la spécialisation des pièces au sein de l'espace domestique et ont permis de surmonter les risques de promiscuité. Je dis promiscuité, normalement ça le fait réagir, c'est pas le terme qu'il retiendra, mais il nous dira pourquoi tout à l'heure. Poursuivons notre tour de table. Alors, eh bien, ça tombe bien, Benjamin s'est approprié le micro sans courtoisie aucune vis-à-vis non, mais vous avez bien fait. Et vous avez bien fait, je le taquine, et je suis très heureux, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes un juriste, ça a été rappelé, et vous avez, et c'est l'occasion de présenter de dire un mot, d'ailleurs je vous laisse peut-être le soin d'en dire un peu plus, un mot sur cette revue Socio. Est-ce que tu...
Ben,
Parler de la revue, oui, et oui. Je peux parler du numéro éventuellement. C'est
ça. Voilà, tu veux déjà nous dire. Voilà, parfait.
Malheureusement, la rédactrice de Socio, qui est Soline Massot, ne pouvait pas être là ce soir. Elle, comme vous savez, à Paris est en congé pour l'instant. Donc, elle ne pouvait pas être avec nous, ce qu'elle regrette. Et donc, Socio est aussi une revue qui est, donc, à partir de thèmes choisis par le comité éditorial, édite régulièrement, deux fois par an maintenant, cette revue que l'on trouve, qui était à l'initiative au départ de Michel Vivorca, et qui est une revue qui est très fouillée, en tous les cas, et très... Bon, je laisse maintenant Benjamin, qui connaît très bien le numéro, mais qui est un numéro absolument passionnant, parce qu'un tour d'horizon très précis et très ample des questions de sexe et de genre,
tout à fait.
Y compris sur le chamanisme des Inuits, dont on dit qu'ils ont un troisième genre.
Très belle revue, d'ailleurs, de très belles factures, et toujours d'actualité, je m'en suis assuré, donc qui a maintenant peut-être plus de 10 ans d'existence. Alors, Benjamin, vous avez un mot sur ce numéro, et on zoomera ensuite sur votre contribution. Voilà, Benjamin.
Alors, c'est un numéro auquel j'ai contribué à une époque où j'étais rien dans le monde de la recherche. Et j'avoue que quand j'ai vu les gens qui étaient dans ce numéro, les bras m'en sont un peu tombés. Bernard Saladin d'Anglure, qui fait les premiers articles, Françoise Héritier, qui fait les derniers articles. Donc, je pense que ça donne aussi quand même à ce numéro une importance. Et effectivement, vous l'avez dit, Corinne et Sylvain, il y a dans ce numéro un effort vraiment de prendre la question de la diversité des sexes. Alors, il faut entendre ici « sexe » comme le mot archaïque qui peut renvoyer à la fois aux caractéristiques sexuées et aux genres. Donc, combien de sexes ? À la réflexion, c'est un bon titre. Il a dû générer quelques tensions, j'imagine, parce qu'au départ, c'était combien de gens ? Mais je pense que c'est un bon titre parce que le terme de sexe est sans doute celui qui, historiquement, est le plus compréhensible et permet d'englober le plus largement les deux principaux groupes d'individus qui sont traités. Ceux qui sont à la marge d'un système de genre entendu comme des identités construites, pas d'abord par la biologie, et ceux qui sont, ou les personnes qui sont à la marge d'une catégorisation sur les caractéristiques sexuées. Et donc, combien de sexes et à la fois combien de caractéristiques sexuées et combien de genres. Et ensuite, le numéro me paraît très bon parce qu'il arrive à combiner à la fois le temps présent français ou européen avec le temps passé, donc il y a un article d'une historienne qui revient, mais aussi le temps présent actuel dans d'autres cultures, mais aussi le temps passé dans d'autres cultures. Oui. Et donc là, je trouve qu'il y a une très très bonne présentation de la complexité des enjeux et des ponts à chaque fois. C'est-à-dire, on vous dit, c'est dans l'introduction de Michel Vivorca, qui nous dit « on est en train là de vivre un moment vraiment fascinant où la modernité retrouve des civilisations présentées comme archaïques ». Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, hein, pardonnez-moi. Mais donc, il montre vraiment ce lien qu'on est en train de vivre. Et accessoirement, j'ai trouvé dans ce livre un secours formidable dans la période difficile que je traverse pour ma part avec les éloges de Robert Badinter, qui sont partout, et on oublie complètement la face noire de Robert Badinter. Et dans cet ouvrage, Bernard Saladin d'Anglure rappelle cette face noire, qui est que Robert Badinter n'a rien fait pour la question trans au moment où pourtant on faisait la même chose en Allemagne. Donc, un numéro d'une actualité, je veux dire, toujours brûlante pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Malgré une publication en 2017. Hein, voilà. Et du coup, on évoquera les suites intervenues depuis à travers d'autres écrits. Mais s'agissant alors de votre contribution, le droit des personnes intersexuées, vous nous rappellerez précisément ce que ça recouvre, pourquoi ne pas parler d'hermaphrodisme, etc. Mais auparavant, j'aimerais poser le fait, et quitte à enfoncer peut-être des portes ouvertes, mais votre contribution de juriste nous aide à comprendre la fonction du droit, qui n'est pas de clore les débats qu'aiment poursuivre les chercheurs en sciences humaines et sociales, etc., au prétexte que le droit dicterait les choses, mais de rendre compte de la capacité, vous rendez compte de la capacité du droit à nous aider à poser de bonnes questions et à pointer les problèmes que soulève, en l'occurrence ici, l'aspiration, la revendication des personnes intersexuées à ne pas voir mentionner leur genre, leur identité sexuelle dans les documents administratifs de la carte d'identité à l'état civil, etc. Et est-ce que vous pouvez peut-être déjà réagir à mon lecteur, à ma réaction de non-juriste quant à la fonction du droit? Ça n'est pas simplement de rappeler le droit, mais aussi de nous aider à nous poser de bonnes questions.
Oui, il y a en effet cette qualité, me semble-t-il, du discours juridique qui est, parce qu'il s'occupe de problèmes évidemment techniques, de mettre le doigt sur des problèmes qui ne sont pas forcément toujours apparus. Alors très bien, on a décidé, mettons, de reconnaître trois genres. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la carte vitale? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour tous les dispositifs architecturaux, les dispositifs dans les écoles, dans la procréation médicalement assistée qui a été évoquée tout à l'heure, qui repose sur une binarité du genre, parfois des caractéristiques sexuelles. Donc, tous ces problèmes-là, c'est vrai que les juristes, c'est leur pain quotidien de penser les problèmes techniques. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut dire. Et le deuxième point, c'est que les débats ne sont jamais fermés. Le droit a une nature, on pourrait dire, un peu probabiliste. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas posées, donc on peut faire des conjectures. Dans ce texte, par exemple, je fais des conjectures sur ce que sera l'avenir. Une partie ont été confirmées, une autre a été infirmée. Donc le droit a cette nature probabiliste. Et même quand une décision de la plus haute instance dit que ça sera noir, le lendemain, le législateur peut dire « ce sera blanc ». Et puis, le surlendemain, une décision de niveau international peut dire « ça sera gris ». Et alors, il va falloir que le législateur et la juridiction française suprême disent « bon, bah, ça sera gris ». Mais cette juridiction internationale qui a dit « gris », il peut y avoir une autre juridiction internationale qui dit « en fait, ça sera beige ». Et du coup, la première juridiction internationale va dire « ah, ça sera peut-être alors gris ». Ou peut-être beige, je vais peut-être quand même dire beige. Donc, en fait, ça bouge, le droit n'est pas du tout fixe. Et c'est vrai que je pense qu'il faut sortir de cette représentation d'un droit qui serait figé et aussi d'un droit qui serait le droit des plus puissants. Oui. Jacques Comaille, dans son ouvrage « À quoi nous sert le droit ?», rappelle cette ambiguïté du droit, un peu comme le logement, qui peut à la fois être un espace d'oppression et aussi un espace de libération.
Alors, si on en reste déjà à l'échelon national, on voit combien c'est complexe, parce que dès l'abord, vous rappelez donc des décisions qui ont été prises par deux tribunaux, le tribunal de grande instance de Tours, et puis la cour d'appel d'Orléans, et qui arrête des décisions suite à une demande d'une personne, deux personnes à ne pas avoir mentionné donc leur identité. Et les décisions peuvent apparaître pour le commun des mortels, dont je suis, comme des avancées par la jurisprudence. Mais vous nous rappelez que non, il ne suffit pas que des jurisprudences fassent évoluer les choses, parce qu'elles n'ont pas la capacité de faire évoluer le droit coutumier, c'est ça, et puis ou encore moins la législation. Ce ne sont que des étapes qui ne préjugent pas de la suite.
Oui, en effet, donc moi-même, je ne suis pas une personne intersexe, mais j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes, et à la suite de cette rencontre, l'idée de faire un procès pour concrétiser une idée un peu folle que j'avais eue dans ma recherche s'est fait jour. C'est comme ça que la procédure a démarré en 2014. Et il y a finalement dans cette...
vous les aviez suivis, c'est... Oui, c'est... oui d'accord, ce que vous me dites pas.
Ma compagne était l'avocate de cette personne.
Ah, d'accord.
Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces deux décisions que vous avez évoquées, on voit les deux principales solutions qui ont été dégagées dans les ordres juridiques. Soit l'effacement de la mention, c'est la solution de la cour d'appel d'Orléans, en disant si on se met à reconnaître sexe neutre, ça va être discriminatoire, ça va créer une classe de paria. L'argument peut s'entendre, mais il trouve rapidement ses limites pour les adultes, qui seraient assez grands, me semble-t-il, pour décider si oui ou non, constitue une paria. Pour les enfants, on peut l'entendre. Mais pour les adultes, c'est limite. Et puis, si on enlève la mention du sexe que pour ces gens-là, finalement, c'est la même chose, on les stigmatise. Et puis, de l'autre côté, la position orléanaise, qui est de dire, non, il faut vraiment les reconnaître positivement, sinon, c'est une sorte de discrimination. Les hommes et les femmes ont le droit à une mention positive, pourquoi les personnes intersexes n'en auraient pas? Donc ça, c'est la position un peu progressiste, on essaye de faire quelque chose. Et de l'autre côté, il y a la position conservatrice de la Cour de cassation qui, à travers un paralogisme, la décision correspond pas à ce qu'on apprend à nos étudiants, mais au fond, avec ça aussi, on apprend que le droit, c'est pas que de la logique, et qu'il y a une dimension politique très forte, la décision de la Cour de cassation qui nous dit « non, ça n'est pas possible ». Et depuis lors est intervenue la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit non, si le Parlement ne l'a pas voulu, ça n'est pas possible. Les droits de l'homme, ils sont justement là pour aller au-delà du Parlement quand il ne fait pas son travail.
Alors ça, c'est intervenu après la publication, voilà, et on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'on découvre aussi à la lecture de votre livre, c'est que le droit n'est pas le seul moyen de faire évoluer les choses. L'exécutif a la possibilité de le faire, et le législatif, le Parlement. Et on découvre qu'un certain nombre de pays, finalement, se caractérisent, plus ou moins attendu, plus ou moins inattendu, le Kenya, le Pakistan, l'Inde, l'Australie, etc., ont réalisé des avancées, mais par des voies différentes.
Oui, c'est ça. Au fond, on a soit la voie un peu du pouvoir politique, soit la voie du contre-pouvoir. Mais du point de vue de la stratégie militante, ce qui fonctionne souvent, c'est de faire les deux en même temps. Le juge, sa particularité, c'est qu'il est obligé de répondre à la requête. Sinon, ça s'appelle un déni de justice. Mais il a des problèmes de légitimité quand même. Il marche un peu sur des œufs. Ouh là là, reconnaître un troisième sexe dans une société conservatrice, je suis pas sûr de vouloir le faire. Je risque de porter atteinte à l'image de la justice. Bon, mais le Parlement, lui, peut faire plus. Mais ça a un coût politique, électoral. Alors souvent, si vous poussez sur les deux, vous pouvez dire aux parlementaires, attention, on a fait un recours devant la Cour européenne, vous avez intérêt à vous en occuper. Et effectivement, quand la Cour européenne constate que les politiques ne font strictement rien alors qu'ils sont saisis, elle est plus exigeante. Donc, aller devant les deux en même temps peut être une bonne stratégie.
Alors, dernière chose avant de poursuivre le tour de table, sachant qu'on pourra revenir sur d'autres éléments, c'est que ce qu'on découvre aussi, c'est que au fond, la mention du sexe sur des documents administratifs, à commencer par la carte d'identité dans le cas de la France, et en fait, relativement récent, même très très récent. Est-ce que j'ai bien lu en gardant en tête le fait que ça remonte à... Voilà, c'est ça. 1980, hein, pas 1880.
Et alors avant, ce qui est intéressant, les premières cartes d'identité, quand on commence vraiment, l'État s'occupe de mettre en place ce dispositif d'identification, les photos sont très grandes. Et c'est des photos où on voit les vêtements des gens. Donc on n'a pas besoin d'avoir le sexe, puisque de toute façon on voit les vêtements des gens. Et puis au fur et à mesure qu'on resserre sur la tête, ah là, ça devient plus compliqué. Et donc, cette apparition de la mention, elle provient aussi au resserrement des exigences sur la photo, à mon avis. Mais tout à fait, c'est une apparition récente, en tout cas pour la France, et qui n'est pas sur la pièce d'identité, le permis de conduire, par exemple. Donc, on voit qu'on peut tout à fait s'en dispenser.
Daniel, vous m'autorisez d'interpeller Michel Bozon, parce que en écoutant Benjamin, j'entends et un juriste et un sociologue du droit. Pour faire écho à notre discussion quant à savoir si le droit était une science sociale. Vous voulez réagir à ma provocation ?
Et si je faisais le démographe de l'INED pour dépister un tout petit peu. Surtout les phénomènes, quand on veut les faire avancer, en général, il y a une stratégie par la quantification et par les chiffres. Vous le savez, effectivement, l'ouvrage sur les minorités de genre et de sexualité publié par l'INED aborde cette question, mais elle est beaucoup plus délicate, au moins pour les intersexes. S'appeler intersexe est le propre... d'une partie de la population, je dirais, entre guillemets, concernée seulement, puisque, souvent, la population concernée voit ses problèmes gérés à la fois par les médecins et par les parents des personnes concernées, les parents des personnes concernées étant très soucieux de normalité, en réalité, de pas de faire apparaître une situation qui soit différente, mais une situation normale. Donc, il reste que on a besoin de comprendre qui sont les personnes qui vont se déclarer intersexes parmi toutes les personnes qui peuvent être concernées par ce qu'on appelle de façon plus neutre les variations du développement sexuel ou les variations intersexes. Ces choses-là. Donc voilà, je me pose cette question-là.
Du coup, ça me permet de répondre à une question à laquelle j'ai oublié de répondre, c'était la définition de personnes intersexuées et également la quantification. Mmh. Donc là, c'est vrai que pour la question des personnes intersexuées, la quantification se pose avec une difficulté particulièrement accrue. Parce que la définition même des contours de ce que j'appelle, moi, personne intersexuée, elle peut varier vraiment d'un groupe d'individus à un autre, et en fonction de votre propre définition personnelle de ce que c'est qu'un homme ou une femme. Et donc je dirais que si vous avez une approche extrêmement élargie de l'homme et de la femme, parce que vous refusez un petit peu tout ce qui se dépasse, vous allez dire « Ah, les personnes intersexuées, c'est 0,02%. » En gros, ça correspondrait à ce qu'on appelait avant l'hermaphrodisme vrai, donc environ 160 naissances par an en France. Mais sitôt que vous avez une acception plus, je dirais, normale, moins pathologique de l'intersexuation, donc là, vous allez avoir une approche plus étroite de l'homme et de la femme. Et donc, par exemple, un enfant qui naît avec une verge qui est recourbée parce que l'orifice n'est pas au bout de la verge, vous direz, cet enfant, on peut l'appeler mâle, mais on peut aussi l'appeler personne intersexuée. Et là, tout d'un coup, le chiffre, il bondit à 2%. Et là, on voit aussi l'intérêt de bien distinguer la sexuation du genre. Et l'une des difficultés que j'ai rencontrées, alors non pas avec l'INED, mais avec l'INSEE, c'est lorsque je leur ai demandé « Mais pourquoi est-ce que vous ne comptez pas les personnes intersexuées ?» Et l'on m'a répondu « Mais il y en a trop peu !» Et donc, si on les comptait, on aurait des problèmes de vie privée. Et je leur ai répondu « Mais comment vous savez qu'il y en a trop peu ?» Le débat s'est arrêté.
Tout à fait. Alors, c'est certainement pas la réponse qu'auraient faite Wilfried et comment Mathieu hier, soucieux qu'ils ont été de rendre compte, et Martine nous le rappelait, de la dimension qualitative et de la nécessité de rendre justice à ces minorités de par leur capacité à anticiper, à nous éclairer sur des évolutions qui pourraient finalement concerner un plus grand nombre de personnes, qu'elles se considèrent intersexuées ou pas. Poursuivons avec vous, Daniel, j'imagine que vous avez envie de réagir à tout ce qui a été dit, vous aurez l'occasion de le faire. Rentrons quand même un peu plus dans l'objet de cet ouvrage. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime beaucoup la couverture? Oui, hein, bon, voilà, je suis impartial, mais j'aime beaucoup.
Il a été choisi par l'éditeur. Je l'ai vu quand ça a été choisi. Moi, personnellement, sous le coup, je n'étais pas emballée. Mais je vais vous dire pourquoi.
Oui, parce que
la plupart des textes, on parle de textes qui sont plutôt du 20e siècle. Mmh. Et là, ça a un petit côté 19e. Et je trouvais, ça fait 19e. Puis moi, j'aurais mis quelque chose de plus actuel, énergique, oui. Et une de mes collègues m'a dit, tu sais, déjà, il y a un livre, il y a une femme qui écrit sur la couverture, c'est déjà beau. Mais c'est pour vous dire. Hein. Alors, elle avait bien raison. Et oui, elle est belle. On s'habitue.
Ouf. Très bien. Alors, sur la couverture est mentionné le nom de la co-directrice, dont Catherine. Je vous laisse le soin de dire quelques
Catherine
mots.
Catherine Violet. Voilà. Bon, le volume est né d'un groupe de recherche à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui est au CNRS, École normale supérieure, et un sous-groupe qui s'appelait Genèse et autobiographie, qui avait été fondé par Catherine Violet au milieu des années 90. Donc, les manuscrits, bon, déjà, textes manuscrits, c'est que l'ITEM ouvre l'étude des textes littéraires à leurs manuscrits, c'est-à-dire à tous les documents d'archives qui peuvent être les brouillons, les plans, les mises au net, les tapuscrits, et les inédits, les textes inachevés, donc tous les documents d'archives. Et le groupe, le sous-groupe avec lequel je suis associée, on travaille particulièrement sur les textes autobiographiques, le genre autobiographique, c'est-à-dire tout ce qui a rapport à l'écriture de soi, le journal intime, les mémoires, même le roman autobiographique, l'autofiction, les carnets, tout ce qui peut être l'écriture de soi. Et chaque année, on a un séminaire à différents sujets. Et en 2012-2013, Catherine Violet, qui était la responsable, avait choisi ce thème qui lui tenait à cœur, genre, sexe et sexualité, sur lequel elle travaillait depuis les débuts des années 80. C'était vraiment une pionnière. Je dis c'était parce qu'elle est décédée au moment qu'on faisait le volume, en 2014. Elle est décédée. Et on avait... je l'aidais. Hein, j'étais juste celle qui l'aidait. Et on avait reçu tous les textes des chercheurs. Elle les avait lus. Elle les avait approuvés. L'éditeur avait accepté le volume. Et bon, elle nous a quittés. Et donc, j'ai terminé le volume seul, sans ma collègue et sans mon ami. Et donc, c'est un volume qui est cher à mon cœur. Et on lui a rendu hommage en incluant une très, très longue biographie de ses travaux et qui montre comment, très, très tôt, dès les années 80, elle s'intéressait aux questions linguistiques. C'est une linguiste à l'origine, mais elle est devenue littéraire tout en restant très, 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 très près de la langue. Quand vous travaillez sur les manuscrits, vous êtes vraiment au ras de la langue, on peut dire. Hein. On voit l'œuvre qui se crée par la langue. Hein.
Alors, justement, Daniel, pardon, une double question sur la nature exacte de ces manuscrits. Vous l'avez un peu suggéré, mais précisez encore, c'est-à-dire que vous... Pour ce qui vous concerne, vous, hein, vous travaillez sur des éléments très en amont dans cette démarche de génétique littéraire.
Hein. Oui, génétique, voilà. c'est simple, c'est la genèse des œuvres. Comment les œuvres ont été écrites. Notre question, c'est comment l'écrivain travaille à partir de traces, de l'étude de traces qui sont ces documents. Des fois, on peut s'appuyer sur des entrevues avec l'écrivain, mais c'est vraiment les traces, l'étude de ces traces, par les transcriptions. Et c'est un travail très, très minutieux et très long, mais passionnant. Personnellement, je trouve ça passionnant.
Et en quoi c'est instructif, éclairant sur le rapport à l'identité, au genre des auteurs? C'est-à-dire, je le dis de manière un peu abrupte, mais vous me corrigez et vous précisez, c'est-à-dire que ces éléments manuscrits en amont de la publication sont des espaces, des moments d'expression d'identité que l'on ne retrouvera pas forcément. Voilà.
Bon, je vais vous donner l'exemple. Type quand... Dans l'expression, l'écriture de sexualité socialement moins acceptée, c'est sûr que la personne qui écrit, c'est ce qui écrit au « je », qui écrit sur lui, fait face à des empêchements, c'est-à-dire la censure, de l'autocensure, des contraintes, et les censures peuvent venir de l'éditeur, l'autocensure peut venir de lui. Donc, il y a tout de l'empêchement avec la question de sexualité peut-être moins acceptée, mais aussi juste la question de la sexualité. Si vous écrivez, je vais vous donner un exemple, Annie Ernaux, une des chercheuses, Julie Leblanc, a travaillé sur un texte de Annie Ernaux, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle « Passion simple ». Elle raconte l'histoire d'une... Vous l'avez connue, bon, c'est quand même un prix Nobel, Annie Ernaux, donc j'en parlais. Et c'était une aventure, une passion, hein, qu'elle avait eue avec un diplomate russe. Et la généticienne, ici, elle a trouvé le texte, bien sûr, de Passion simple. Elle a trouvé aussi le journal intime que Annie Ernaux écrivait au moment de l'aventure même. Et Annie Ernaux a une pratique d'écriture très particulière. Elle écrit ce qu'elle appelle des journaux d'écriture, donc dans lesquels elle négocie son travail, elle fait des expériences, elle discute avec elle-même. Et vraiment, donc, la chercheuse avait accès à ces trois types de documents pour voir un peu comment le texte est advenu et comment elle, ce qui l'intéressait, c'est les questions, bien sûr. Annie Ernaux, son but, elle, c'est d'écrire une vérité. Elle cherche la vérité dans son écriture de l'expérience qu'elle a vécue. Et la chercheuse pouvait voir comment Annie Ernaux va chercher par l'écriture, la réécriture, et il y a des reproductions des manuscrits, c'est assez bon. On voit que c'est une écrivaine acharnée. Hein. C'est vraiment une femme qui travaille très fort. C'est des choses qui peuvent paraître simples, on demandait des travaux en amont. Donc, je mentionne Annie Ernaux parce que je pense que c'est un cas que... Mais je veux mentionner un autre cas ici, c'est Marion Krataker, qui est une autre chercheuse. Elle a écrit sur un manuscrit Les souvenirs de l'hermaphrodite Herculine Barbin, que peut-être vous connaissez, qui est un cas du 19e siècle, c'est un intersexe,
Écoutez, qui avait été
mis au jour dans les archives par Foucault. Donc, c'est assez connu. Et la jeune chercheuse est retournée dans le manuscrit, retournée dans le texte, et en a fait une relecture avec la pensée du genre actuel. Quand même, Foucault nous a quittés depuis plusieurs années, ça bouge, hein, cette pensée-là. Donc, elle fait une relecture de ça, et Herculine Barbin, est-ce qu'elle montre je ne sais pas si vous avez lu les souvenirs d'Herculaine Barbin, je peux en parler. Vous me disiez que c'est le premier cas. Le premier manuscrit
qu'on retrouve d'une personne intersexe qui parle à la première.
À la première personne, elle raconte, elle était née femme, et à la puberté, bon, les choses ont commencé à mal aller, elle n'a pas eu de menstruation, la pilosité a changé, et là, le corps médical lui ont assigné le sexe d'homme. Et donc, elle faisait face, premièrement, à un corps qui la déroutait, et une assignation médicale qui aussi la déroutait. En fin de compte, elle n'avait plus de place. Et ses souvenirs sont en fait une longue lettre de suicide. Elle s'est suicidée dans une chambre de bonne à Paris à l'âge de 25 ans. Mais c'est vraiment le témoignage de ce drame, le drame de cette femme qui est une dysphorie. Donc, l'identité sexuelle, la personne, l'individu ne peut pas vivre son identité sexuelle. Et donc, il y a ce texte-là. L'autre sujet du volume, ça c'est qui est très fort, c'est la question, comme j'ai dit, la censure et de l'autocensure. Et là, je pourrais vous donner un exemple. Mais je pourrais vous donner l'exemple de ce que moi j'avais fait. Ma contribution, c'était sur les manuscrits de Jack Kerouac, un écrivain américain qui a écrit un livre qui s'appelle Sur la route, On the Road, et qu'il avait écrit en 1950 sur un long rouleau.
Je le montre, Daniel. Voilà.
Ah oui, d'accord, c'est un long rouleau. Et il y a toute une histoire avec ce rouleau. Et c'était un texte dans lequel il y avait sexualité hétérosexuelle, mais aussi beaucoup d'homosexualité, de scènes d'homosexualité homosexuelle. Et il y a eu beaucoup de problèmes à trouver. Il y avait aussi de la drogue, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient choquer. Et on est dans les années 50 aux États-Unis, c'est le McCarthyisme, c'est très conservateur. Ça lui prendra 6 ans de trouver un éditeur, et l'éditeur est très frileux. Il y a eu des procès. Il y avait eu Allen Ginsberg avec un texte qui s'appelait How. Donc, les éditeurs ont censuré le texte. Tout ce qui était sexualité hétérosexuelle est très édulcoré, et tout ce qui était sexualité homosexuelle est complètement gommé, ça disparaît. Et maintenant, mais bien sûr, le rouleau a été publié il y a quelques années, maintenant on peut le lire.
Alors justement, Daniel, avant de laisser Benjamin et puis Michel réagir à vos propos, nous dire en quoi ça les intéresse en tant que lecteur et puis aussi juriste et puis sociologue, sur justement le poids de la censure et de l'autocensure. Est-ce qu'elle a évolué ou est-ce que ça se déplace de sorte que vos questionnements restent d'actualité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de censure ou plus de censure sous des formes
différentes ? J'espère qu'il y en a moins.
Ah, voilà, d'accord.
qu'est-ce
qu'il advient de votre travail, alors ?
Non, mais notre travail, nous, on est quand même dans un contexte historique. Comme je travaille sur Kerouac dans les années 50, on le voit. Et je vais donner un exemple. Catherine était très fan d'une écrivaine qui s'appelle Violette Leduc. Bon, j'ai vu des têtes comme ça. Bon, Violette, elle a travaillé sur Violette Leduc pendant des années. D'ailleurs, le premier texte qu'elle avait publié sur Violette Leduc, elle l'avait publié au Québec. Quand j'ai fait sa bibliographie, j'avais dit, tiens, elle a publié ça au Québec au milieu des années 90. Et ce qu'elle a fait, elle avait formé des jeunes femmes qui travaillaient sur les textes de Violette Leduc, et elle les a formées avec la méthode génétique, comment travailler sur les manuscrits, et ils sont allés, c'était à l'IMEC, ou à l'Institut des manuscrits contemporains, merci, l'édition contemporaine, et ils ont travaillé sur les manuscrits ensemble, et il y a toute une section du volume, il y a 4 articles sur Violette Leduc. Vous me dites pourquoi je parle de Violette Leduc?
Ben,
parce que son texte qui s'appelait Ravage, qui avait été charcuté, censuré par les éditions Gallimard.
Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir. Qui ne sort pas grandi de ses contributions.
Il y a beaucoup à dire sur Simone. D'ailleurs, si vous lisez l'article, la grosse question, est-ce que Simone de Beauvoir était censurante?
Ah, ça ressort clairement.
Moins que les éditions Gallimard, qui était un groupe de lecture juste des hommes, dont était Raymond Queneau, et qui vraiment ont charcuté le volume. Mais vous me dites, quelle est l'actualité? Gallimard s'est quand même rattrapé, vient d'être publié dernièrement, dans les derniers mois, une édition de Ravage non expurgé, tout ce qui avait été enlevé et réintroduit dans le texte. Et je trouve que c'est ce qu'ils ont fait, je n'avais jamais vu ça, tout ce qui est réintroduit dans le texte est en encre violette. Donc, on peut vraiment voir le texte comme il était et maintenant, le texte comme il est maintenant, comme on peut le lire après, c'est un texte de 1955. Faites le calcul, ça fait 70 ans et enfin, maintenant, on peut lire ce texte qui était encre, quand même choquant.
Encre violette, c'est une coïncidence.
Oui, il y a beaucoup de violettes dans notre histoire. Violette, le duc Catherine Violet, l'encre violette. Voilà.
Benjamin et Michel, comment réagissez-vous à comment ce travail sur des matériaux qui ne sont pas ceux, qui n'est ni le corpus sur lequel vous travaillez, Benjamin, ni la matière d'enquête sur laquelle vous travaillez, Michel?
Il me semble intéressant dans le récit d'Herculine Barbin de relever que la situation aujourd'hui a bien changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, les personnes intersexuées ont un peu le choix de l'opération. Alors, c'est sûr que dans le contexte où vivait Herculine, l'interdiction des amours lesbiens, ce choix, il est tout à fait contraint. Mais aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'il y a 2 ans en France, ce choix, il était inexistant pour beaucoup de personnes intersexuées qui étaient opérées à la naissance systématiquement pour rentrer dans une binarité. Et le choix d'Herculine Barbin est intéressant pour montrer cette bascule qui s'est faite avec ceux-là même qui ont inventé le genre, John Money et Robert Stoller notamment, qui, ces personnes ont mis en place des protocoles systématiques. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur le genre qui, je crois, change dans le manuscrit d'Herculine Barbin, entre le « il », le « elle », et ça, je pense, c'est aussi intéressant, parce que ça permet de pointer du doigt une difficulté fondamentale linguistique, qui est un peu évoquée ici, qui est le problème d'un système du tiers exclu. C'est-à-dire que notre système occidental, ça n'est pas lié à la religion catholique, comme parfois c'est écrit dans l'ouvrage, mais comme c'est écrit ailleurs dans l'ouvrage, c'est lié à la pensée aristotélicienne, c'est Bernard Saladin d'Anglure qui insiste. Notre système du tiers exclu, il a rayonné aussi dans la grammaire, et donc on a une difficulté à s'exprimer. Donc je pense que si Herculine Barbin avait écrit aujourd'hui, elle aurait utilisé les systèmes d'Alferatz ou de Pristouraille, qui proposent des systèmes soit de genre commun, soit de genre hors sexe.
Que vous utilisez, Benjamin, d'ailleurs. Voilà.
Je vais lire le début de l'article. Adélaïde Herculine Barbin, dit Alexina, est née à Saint-Jean d'Angély en 1838. Déclarée fille, il, elle, est éduquée comme telle dans un orphelinat au couvent des Ursulines. Donc, en bas, et là, il y a une note en bas de page. Nous employons ici le masculin et le féminin, double utilisation soutenue par l'Organisation internationale des intersexes francophonie, qui souligne l'absence de forme grammaticale adéquate pour désigner la réalité hermaphrodite. Donc, le texte, c'est la chanson, c'est la première chose qu'elle a dit. C'est il, elle. Oui, c'est, oui. Elle.
Il me semble que c'est vous, Benjamin, qui parlez d'auteur. Hein,
auteur, autrice.
Voilà,
tout à fait.
C'est
une des formulations.
Une des formulations. Je dis pour celle.
Mais auteurie serait dans le système de Pristouraille.
D'accord. Les réactions du sociologue de service.
Oui, mais j'accepte le service. Bon, mais je ne suis pas de service tout le temps. Hein, c'est ça la différence. Hein, bon. Non, à propos de d'Annie Ernaux, d'abord, je dirais qu'elle n'est pas si éloignée de la sociologie que ça, hein, comme vous le savez. Hein, bon. Nous l'avons d'ailleurs invitée en 1991 à l'INED, où elle avait fait une intervention sur l'écriture du quotidien familial. C'est moi qui l'avais invitée. Hein, bon. J'ai d'ailleurs écrit sur elle aussi. Hein, j'aurais pu participer à votre volume. À l'époque, vous savez ce qu'elle écrivait en 91, hein, évidemment.
C'est pas bien de passion formuler simple. La question comme ça.
Oh, elle écrivait Passion simple.
Oui, elle m'a parlé de Passion simple qu'elle était en train d'écrire, où elle parlait d'une passion amoureuse, m'a-t-elle dit. Mmh. Et puis, bon, non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve intéressant que, en fait, on n'ait pas publié seulement Passion Simple, mais le journal dont vous parlez, oui, il a été publié 10 ans après, Se perdre, hein, oui, un autre titre. Et puis, bon, l'atelier aussi a été publié. Son atelier d'écriture est aussi quelque chose qui se vend très bien. Donc, on voit que les goûts du public pour la fabrication s'affirme également. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire.
Très brièvement, parce que j'aimerais qu'on entende la salle.
À propos d'Annie Arnaud, aussi, la chercheuse ici, quand elle travaillait sur les manuscrits de Passion Simple, elle devait aller chez, cogner à la porte d'Annie Arnaud, qui vient à Cergy, puis à voir ses manuscrits, tout ça. Maintenant, tout ça a changé. J'ai vu dans un journal de la BNF, elle a déposé ses manuscrits à la BNF. Ça veut dire qu'il y aura encore de plus en plus de recherches et il y a des publications. Vous avez tout à fait raison. Il y a un goût pour l'atelier de, et les, l'arrière-boutique des écrivains.
On pourrait s'y attarder dans cet atelier, tant c'est passionnant, mais le temps, je ne le vois pas passer, ce qui est plutôt bon signe, j'espère que c'est votre cas aussi. On va prendre votre question. Auparavant, je laisse en suspens la question sur la sexualité et les pratiques et comment ça a évolué. Ça a évolué au fil du temps à mesure que les espaces, les pièces se sont spécialisées. Laissons-la de côté. J'aimerais mieux vous poser la question transversale, la fameuse question surprise qui s'adresse aussi à Evelyne et puis Martine. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est dans quelle mesure des ouvrages comme ceux-ci, ou des publications comme celle-ci, qui sont des œuvres collectives impliquant plusieurs auteurs, autrices, auteurs, sont l'occasion d'approfondir une réflexion engagée dans les journées d'études, au cours des journées d'études ou des colloques dont ces publications sont issues. Vous voyez le sens de ma question ? Qu'est-ce que ça vous a appris, le fait de participer à cette collective ? Je vois que vous semblez être intéressé par la question, Daniel.
Oui, bien sûr.
On vous rend un micro.
C'est sûr. Déjà, puisque le sujet ce soir, c'est dans l'intimité de la recherche. Déjà, dans les séminaires, on discute. Oui. Chaque chercheur discute avec les autres chercheurs. Et déjà, son questionnement évolue. Et quand il écrit le texte pour le volume, c'est sûr que par l'écriture, il va continuer sa recherche et que oui, ça évolue et que par le contact des autres, oui, c'est clair que participer à un volume comme ça, ça fait avancer ça, la pensée.
Alors, Benjamin ne veut pas répondre maintenant et je peux subodorer pourquoi. Michel, parce que son cas de figure est un peu particulier.
Non, je crois que, par exemple, pour moi, ça a été un défi de participer à ce travail autour du logement, de l'habitat, parce que ça permet de réfléchir à une définition un peu élargie du genre, hein, parce qu'en France, traditionnellement, le genre est abordé à partir de deux objets principaux, qui sont le travail, d'une part, hein, c'est la définition la plus ancienne, et puis, plus récemment, c'est plutôt à partir des années 90, de la sexualité. La sexualité des sexualités. Et c'est un petit peu trop réducteur, finalement, parce que ça n'arrive pas à montrer comment le genre se fabrique à partir de multiples instances qui ne sont pas seulement ces deux-là. Hein, et par exemple, la vie privée, la vie quotidienne, on pourrait dire maintenant la communication, le numérique, on pourrait dire bon, beaucoup d'autres aspects qui interviennent et qui le rendent aussi difficile à ébranler. Parce que ça se construit, ça se fabrique de partout. Hein, c'est-à-dire que si ça s'affaiblit dans un domaine, il y a un autre domaine où ça reste fort. Par exemple, ça peut s'affaiblir dans le domaine de l'éducation. Hein, on sait que, par exemple, il y a plus de femmes diplômées aujourd'hui, même hautement diplômées, que d'hommes. Hein, bon, mais comme ça ne s'affaiblit pas dans le monde du travail, bon, eh bien, ça reste solidement en place. Hein, et même dans les questions de sexualité, maintenant, il y a des ébranlements étranges hein, que montrent nos enquêtes. Par exemple, la montée d'une revendication de bisexualité, hein, qui, bon, dont peut-être Mathieu et Wilfried ont parlé, qui, notamment chez les femmes, hein, qui ébranle d'une manière imprévue, un petit peu imprévue, le genre.
Est-ce que je me trompe, Benjamin, si je dis que vous hésitiez peut-être à répondre à la question ? Parce que dans votre cas, non seulement vous étiez un juriste perdu au milieu de chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines et sociales, mais en plus pour les besoins d'une publication. Donc la logique peut-être d'édition est différente.
Disons que j'aimerais une bien revue. Que tous les dossiers qui sont faits par les collègues donnent lieu préalablement à des rencontres. Voilà. Et je regrette de plus en plus de voir sur Effigie, par exemple, des appels à communication, mais les gens finalement ne se rencontrent jamais et il y a des trucs de briques et de brocs. Alors, ce n'est pas le cas de ce numéro, hein, parce que j'imagine qu'il y a eu dans la sélection un travail très minutieux. Mais parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui décident que c'est bien pour leur avancement de faire un appel à communication. On n'a pas les ressources pour réunir tout le monde, faire un colloque. Il y a une multitude de revues qui se créent et donc on va avoir un appel à communication. Alors c'est bien parce que du coup, il y a énormément de recherches en études de genre qui se font comme cela. Mais sur le long terme, j'ai peur que cette recherche soit pas toujours d'une qualité égale à ce qu'on peut être habitué parce que on n'a pas pu interagir ensemble et construire ensemble le numéro. Alors, ce qui est bien et ce qui a été en partie fait, c'est quand, à la fin du numéro, on fait une sorte de réunion où les gens peuvent venir. Alors là, les gens n'étaient pas forcément toutes et tous venus, mais ça permet au moins de créer du lien social et d'avoir cet échange vraiment un peu entre les disciplines, quoi.
C'est l'avantage du...
Le micro, Daniel, pour l'enregistrement.
Oui, c'est l'avantage du séminaire annuel. Quand j'ai dit c'est un séminaire, c'est l'année 2012-2013, donc c'était toute l'année, on se rencontrait une fois par mois, donc c'est pendant toute l'année qu'on a pensé à cette question, et là on se rencontrait, on échangeait, donc on se connaissait. Tous les gens qui sont dans ce numéro, je les ai vus présenter, je les ai vus avec des questions, je les ai vus défendre, alors, donc c'est bien, c'est l'avantage. Mais je comprends ce que vous dites, que c'est un peu décousu, ça, c'est les articles viennent de... un peu n'importe où.
Mais en même temps, pour tempérer, il me semble important aussi d'avoir conscience des rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans les colloques et que tout le monde ne peut pas venir à un colloque. Donc, voilà, il faut un juste milieu, mais je pense que voilà, si on peut essayer au moins a posteriori de faire une réunion, trouver des financements pour présenter l'ouvrage, surtout quand on a l'ouvrage, voilà, je pense que ce serait une bonne méthode. Donc ça serait un peu mon conseil aux gens qui veulent faire ce genre d'initiative. Et mon conseil aux éditeurs, c'est vraiment de laisser un peu les gens libres dans les règles grammaticales, parce que là, c'est un vrai problème. On ne s'en sort pas. À chaque fois, c'est la bataille. On risque de perdre finalement tout l'effort parce qu'il y a un blocage sur les règles de grammaire. Donc voilà.
Vous êtes conscient
les pronoms et tout ça
là, entre autres, les pronoms, mais il n'y a pas que la féminisation.
Alors, vous êtes conscient, Benjamin, qu'il y a deux représentantes d'édition, de maisons d'édition, qu'on va donc entendre sur ce point.
Alors oui, effectivement, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un livre à la fin, après un colloque, etc., c'est qu'on peut, nous en tant qu'éditeurs, revenir sur les travaux, enfin pas sur le fond des travaux, évidemment, hein, on ne discute pas si ça a été déjà validé, etc., mais sur la façon dont c'est dit, sur la façon dont nous, on considère que ça doit être... ça n'est plus un public d'universitaires ou de professionnels, mais ça doit s'adresser à un grand public, à tout le monde. Et c'est là où on a un dialogue qui se fait avec, en général, les directrices des ouvrages, et qui permet à la fin, effectivement, des fois, il y a des petites il y a des frictions, ça peut arriver, mais au final, c'est ce qui donne des ouvrages qu'on espère vraiment accessibles et excellents en même temps, avec une vraie profondeur scientifique, mais qui, du coup, permet au grand public de découvrir certains sujets qui pourraient... auxquels ils n'ont pas forcément accès, ils ne vont pas forcément au colloque, ils ne vont pas forcément... voilà. Donc,
Martine, vous semblez comment vous retrouver dans les propos d'Evelyne. Du coup, j'hésite à vous donner la parole.
Oui, bien sûr, hein, c'est un métier. Moi, j'ai envie de dire, on fait office de premier lecteur, en fait, quand on reçoit un livre. Et y a une forme de filtre, effectivement, où on est à cheval entre ceux qui écrivent et ceux qui vont lire. Donc ça, c'est le propre de tous les éditeurs, je pense, quel que soit le domaine. Voilà. Moi, je veux peut-être revenir au collectif, à l'aspect collectif des ouvrages. Alors effectivement, il y a des journées d'études, il y a des colloques. Il y a aussi, nous, dans nos collections, il y a des grandes enquêtes. Et là, par définition, ce sont des... on va dire des paquebots, hein. Ça dure plusieurs années, il y a le montage de l'enquête, l'exploitation, les résultats, et ça donne des ouvrages. Et là, forcément, c'est des équipes qui travaillent ensemble pendant des années, de la conception jusqu'à la réalisation, et éventuellement, ça peut donner un ouvrage. Là, dans ce domaine-là, on peut citer par exemple un des ouvrages qu'on a publié, auquel j'ai participé aussi, Michel, qui était « Violence et rapports de genre ». Voilà, qui a été une énorme aventure, y compris au service des éditions aussi. On a été nombreux à participer. Ça a été, voilà. Donc, il y a les journées d'études qui sont un moment, ou les séminaires qui sont un moment. Et puis, il y a effectivement des travaux beaucoup plus de longue durée. Et c'est très important d'avoir à un moment donné, en fait, l'état des lieux, l'état de l'art de ce qu'on s'en donnait, c'est
une photo à l'instant T qui t'a, voilà. Mais je retiens du propos de la réflexion introduite par Benjamin, le fait que finalement le processus d'édition est aussi un endroit où se nichent les controverses touchant aux questions de genre, de sexualité et de la manière de désigner, hein, les différentes catégories de personnes. C'est ce que vous disiez également, Daniel. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, on met à disposition le micro avant de cheminer tranquillement vers le... Alors, Corinne, tu es chez toi ici.
Non, c'était par rapport à la langue. Langage et société a publié deux numéros, et le grand spécialiste de la langue et du genre, c'est Luca Greco. Et donc, ces deux numéros font un état des lieux sur comment écrire. Est-ce qu'une écriture bisexuelle, par exemple, est possible? Comment écrit-on pour que ce soit lisible, etc. Donc, il y a des travaux qui sont faits là, et les avancées sont certaines. Alors après... pour les éditions de la MSH, je n'ai pas ici le livre, parce que la plupart des livres qui ont été cités, notamment votre livre, là, Martine Rousseau de l'INED, Violence et rapports de genre, est disponible, comme tous les ouvrages que vous avez cités de votre collection sont disponibles, puisque vous êtes nos éditeurs diffusés. Que disais-je?
Voilà. Et j'imagine que ces numéros-là sont également disponibles ici même.
Voilà, voilà, bien voilà, sûr. Pour de modiques donc, les éditions de la MSH, c'est pour défendre un peu la position des éditeurs, les éditions de la MSH ont publié, via le ministère de la Culture, pour la section patrimoine anthropologique, un ouvrage... tout en écriture inclusive.
Donc c'est un lieu d'expérimentation.
Même l'éditeur disait, je ne sais plus ce que je suis en train d'écrire. On ne l'a pas, on devrait l'avoir parce que c'est un exemple, mais c'était excessivement difficile pour en parler. Tout était absolument, il a suivi, c'était Laurent Bruel qui est maintenant au Louvre, je crois, ou à l'Institut du patrimoine, qui s'est chargé de ce manuscrit et qui était absolument à la fin. Il ne savait plus du tout.
J'observe Benjamin, j'en conclue que finalement, la solution que vous préconisez, c'est-à-dire l'invention de nouvelles formes de désignation, est peut-être une manière d'éviter l'écueil de l'écriture inclusive.
Alors, il n'y a pas d'écueil de l'écriture inclusive. Il y a plein d'écritures inclusives. Il y en a qui présentent des écueils.
Ah oui, d'accord. Oui,
chaque technique présente des inconvénients. Et ce qu'il faut en ce moment, je pense, c'est laisser cette liberté s'exprimer et se rendre compte des difficultés du point médian, du point de la parenthèse, des formes en R, des formes en Z. Donc là, je pense qu'il faut justement que les éditeurs laissent un peu les gens s'exprimer. Et alors, moi, très souvent, je fais un texte un peu radical avec du neutre partout. Et puis après, je me dis, bon, là, j'en ai peut-être pas besoin sur ce mot-là. C'est vrai que là, Sportids, on n'aura pas forcément en tête que c'est sportif. Donc, peut-être je peux essayer de trouver une formule alternative. Et au fur et à mesure, les choses vont se normaliser, ça va se banaliser, et le problème sera réglé. Mais donc là, je pense qu'il faut laisser un petit peu cette créativité s'exprimer, qu'il y ait un dialogue qui s'installe, mais arrêter cette position. On a une ligne éditoriale, on n'en change pas. Non, je pense qu'il faut que de tous les côtés... Moi, je l'ai entendu parfois...
Alors oui, non, nous vraiment, ça dépend complètement des ouvrages. Pour genre à lire et à penser, on laisse le choix au directeur d'ouvrage. S'il décide de faire en inclusif, on a plusieurs ouvrages qui ont été faits complètement en inclusif aussi, effectivement.
Il y a une perspective inclusive, mais il y a beaucoup de solutions qui existent. Hein, c'est-à-dire que il faut pas caricaturer. Je veux dire l'écriture inclusive en croyant que c'est une consigne, pardon. En croyant que c'est une consigne extrêmement stricte. Bon, on peut utiliser, si on a le goût pour ça, la double flexion française-français et ne pas chercher un seul mot qui résume. Dans beaucoup de cas, il y a plusieurs solutions et des solutions de bon sens qui sont pas... Donc, être contre l'inclusif, ça me paraît impossible. Hein, bon, c'est-à-dire si on se rend compte de ce qu'on veut dire. Mais pour être inclusif, il y a beaucoup de manières de faire. Et bon, alors il y a de l'imagination, il y a des solutions un peu poétiques, je dirais, sans mépris pour la poésie, mais qui rendent pas les choses le plus simples possible. Donc il faut chercher aussi la simplicité, même en étant inclusif.
Daniel. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On est pour l'inclusif, mais on est aussi pour le bon sens. Ça, c'est clair. Mais je voulais juste amener une question à propos du genre, le mot genre. En littérature, on a le mot genre. Ça fait des siècles qu'on utilise le mot genre. Oui,
je l'évoquais
c'est
hier.
C'est les genres littéraires.
On l'évoquait la poésie, hier.
La poésie, le théâtre, le cinéma. Bon, donc quand les participantes au volume, ben, c'est à un moment donné, il y a eu cet écueil. Elle parlait de genre littéraire, et c'est le genre.
Tout
et puis même certaines mettaient genre au pluriel, les genres. Ouais. Non, c'est le genre. Il y a eu une éducation au niveau de la langue qu'on a dû faire pour démêler tout ça. Et puis,
se concerter, c'est quelque chose qu'on a évoqué hier. Voilà, ouais, donc très bien.
Mais c'était le bon sens. Et les éditions, on n'a pas été harcelés pour rien. Les gens ont fait, on laissait, Catherine laissait les auteurs choisir leur style, et puis on n'a pas mis tout le volume au même lieu. J'ai donné l'exemple tantôt d'Herculine, l'article sur Herculine Barbin, parce que c'est un genre, c'est un exemple particulier, puisque c'était l'intersexe, mais les autres articles n'ont pas...
Daniel, vous allez écouter avec nous la question de madame en essayant de deviner l'origine du léger accent qui n'est pas québécois.
Bon, je ne vais pas vous le dire. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'allemand. Parce que dans l'allemand, comme vous le savez, il y a trois genres. Féminin, masculin et neutre. Et un enfant qui naît, qui a l'air d'être une fille, on l'appelle Mädchen, das Mädchen. Et c'est neutre. Et quand elle sera plus grande, on lui donnera un sexe. Mais on pourrait dire qu'elle pourrait le choisir elle-même à la maturité, à la puberté. Et tous les mots en chaîne et en line en allemand, ils sont neutres. C'est-à-dire petits. Quand c'est petit, c'est neutre. Je trouve ça très intelligent. Oui. Et moi, je me demande, est-ce que, puisque la grammaire, en définitive, elle est créée par les hommes, elle est décrite par les hommes suivant la langue qu'on parle ou qu'on écrit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en français, on va introduire un troisième genre avec les pronoms correspondants ? Ce serait quand même assez intéressant.
Voilà. Alors, Benjamin, je ne comprends pas, voilà, vous comprenez, que vous n'ayez pas évoqué cet argument parmi tous ceux que vous mobilisez. C'est un argument de poids, en tout cas dans la perspective européenne qui est aussi la vôtre. Vous dites ça parce que c'est neutre.
Luxembourgeoise, peut-être.
Bon, laissons te répondre.
Non, en fait, ces propositions de soit de troisième genre, soit de genre hors sexe, donc pour pouvoir s'exprimer indépendamment du genre, elles existent déjà. Simplement, elles sont connues de quelques personnes, mais CNews s'en fait régulièrement l'écho. Quand j'écris à mes étudiantes, c'est dans la presse. Ici, il me semble que dès lors que l'on, en France en tout cas, l'on admettra la non-binarité du genre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, nécessairement la langue devra suivre. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ça ne bouge pas du point de vue du genre, c'est qu'on a par notre grammaire un véhicule, enfin une reproduction de cette représentation binaire, et donc ça rend plus difficile. En common law, donc dans les pays de droit anglais, comme le genre est beaucoup moins plus présent dans la langue, eh bien, c'était beaucoup plus facile dans certains États. Au Royaume-Uni, il y a l'aspect insulaire qui bloque. Mais dans certains, aux États-Unis, ça a été, par exemple, plus facile dans un certain nombre d'États. Donc, il me semble que la dimension linguistique, elle est essentielle sur la question intersexe. Et pour ma part, en 2017, quand j'ai écrit ce texte, je n'avais pas encore croisé la question de ces grammaires non binaires. Donc, il est encore en masculin générique. Tous les textes post-2018 sont différemment écrits.
Tout à fait. Question. On prend peut-être les deux questions ensemble, surtout si elles...
Moi, c'était pas une question. Je voulais juste défendre la tâche très très compliquée qui est souvent dévolue aux éditeurs et éditrices des ouvrages, qui est de remettre l'ensemble d'un texte en bonne écriture inclusive. Il est assez rare en fait qu'on reçoive un texte où l'auteur réussit à aller jusqu'au bout de son projet d'écriture inclusive. Voilà, donc contrairement à ce que vous disiez, ce sont parfois les éditeurs qui au contraire soutiennent qu'ils soient pour ou contre l'écriture inclusive, ça n'a aucune importance, mais par souci de cohérence et de lisibilité qui permettent au texte de devenir lisible.
En tant qu'évaluateur anonyme, il m'est arrivé plusieurs fois de dire « arrêtez l'hypocrisie ». Et ça a été assez mal pris, mais effectivement, j'avais constaté la même chose. C'est-à-dire que sur les mots visibles, on le faisait, mais en réalité, ces personnes n'avaient pas du tout l'habitude, n'avaient pas fait l'effort de repenser, et ça partait très rapidement sur le bord de la route.
Monsieur ?
Oui, juste sur la question de langue, une question que je me posais en écoutant la discussion, c'est dans quelle mesure... une langue est un peu la cause ou la source de difficultés à avancer ou simplement une réflexion d'une pensée derrière, et c'est plutôt la pensée derrière la construction d'une langue qui est plus le frein.
Ah ben, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Benjamin.
C'est aussi un vieux débat linguistique, hein, c'est-à-dire est-ce que on est contraint par sa langue à penser d'une certaine manière ou inversement. Hein, bon, donc, et c'est pas une question qui rencontre une réponse définitive, jamais. On peut montrer sur des détails certains aspects, certaines, par exemple, manières de penser ou de catégoriser les couleurs qui ont de fait un effet sur les perceptions, hein, mais c'est jamais absolument systématique. Hein, bon, donc voilà.
Vu la manière dont vous êtes saisi du micro, je pense que ça prolonge la réflexion de monsieur, madame.
Ah, non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Au contraire, moi je suis sur autre chose qui m'a intriguée, c'est sur ce que vous avez dit au tout début sur l'habitat.
Le micro.
Ah, sur l'habitat, qui a été en fait finalement peu étudié durant des années. Et ça m'interroge de savoir pourquoi, alors qu'en sociologie, on a beaucoup étudié sur la famille, sur les enfants, et pas sur l'habitat dans cette notion de genre.
Alors, permettez-moi de préciser que, en fait, ce que disent nos co-directrices, c'est l'entrée par le logement qui n'a pas été privilégiée. Et la valeur ajoutée du livre, c'est non seulement donc d'aborder le genre aux prises du logement, mais comme l'a dit Michel, et je le laisse préciser, compléter, en élargissant de surcroît à l'habitat. Mais quant à savoir si l'entrée dans l'habitat par le genre était existante ou pas, là, il y a...
Alors, ce sont des choses qui sont très liées aux politiques publiques également. Hein. C'est-à-dire que dans la prise en compte de l'histoire qui est recommandée par cet ouvrage, il n'y a pas seulement l'histoire multiséculaire-séculaire, mais il y a aussi l'histoire des politiques publiques, et les recherches sur le logement et l'habitat en sont très dépendantes. Par exemple, c'est plus du tout la même chose de travailler sur le logement entre les années 50 où dominait le problème de comment loger les familles nombreuses et la construction des logements sociaux, voire des pavillons, qui était une variante. Et disons qu'à partir des années 80, une autre politique va se mettre en place autour de l'accession à la propriété, c'est-à-dire qui devient la politique dominante, donc beaucoup autour de maisons individuelles, mais pas seulement, mais des aides aux individus, et dans un contexte où le mariage lui-même n'est plus le centre éternel de la vie des personnes. Il y a des divorces, il y a des familles monoparentales, et il s'agit désormais de s'adapter à la diversité de plus en plus grande des situations sociales et familiales. Donc on passe d'un cas à l'autre, et dans cette seconde situation, le genre paraît plus normal. Hein, bon, c'est-à-dire qu'il y a aussi une justification un peu macro-sociologique de la prise en compte du genre, alors qu'auparavant, on pouvait se contenter du ménage, qui a longtemps été la manière dont on traitait et on faisait de la politique avec le logement. Et le ménage a été brusquement vilipendé, critiqué comme approche, hein, bon, même s'il reste utilisé, même dans les meilleurs endroits.
Pendant qu'on donne le micro à Daniel, je m'autorise à glisser. Vous me faites penser à quelque chose, c'est que donc non seulement, et là je parle sous votre contrôle, Michel, mais par habitat, il faut entendre le fait d'habiter un territoire au-delà du logement, à travers les mobilités, donc ce territoire pouvant être à l'échelle du quartier ou de la ville. Et c'est peut-être l'occasion de rendre justice à l'apport des géographes qui, influencés par les gender studies, se sont intéressés à la manière dont la ville était fabriquée, hein, de manière genrée, etc. Hein,
j'aimerais prêcher pour le domaine littéraire. On a en France un écrivain sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans qui s'appelle Georges Perec, qui, je vois encore les gens qui font ça, et qui était un penseur de l'espace, un penseur de l'habitat. Il a fait un roman qui s'appelle La vie mode d'emploi sur un immeuble parisien, un essai espèce d'espace dans lequel il réfléchit à sa façon, mais ce sont des textes qui sont traduits, qui sont lus et qui sont lus dans des départements d'architecture, dans des départements
en géographie.
Un des derniers articles qu'il avait écrit, c'est sur l'emploi du verbe habiter. Et donc c'était vraiment un penseur et un utilisateur de l'espace. Et je pense que même de sa position littéraire, il a quand même fait un peu avancer débat et la réflexion.
Très lié aux sciences sociales aussi, quand même. Hein. Bon, comme Annie Ernaux. Hein. Bon, oui, donc, je crois qu'il faut le voir. Hein. Aussi, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, je vous recommande, hein, se mettre sur une place, observer tout ce qui se passe systématiquement, apparemment sans aucune méthode, et puis s'apercevoir que le troisième jour, on ne peut plus répéter sans arrêt la même chose. On doit commencer à avoir des critères pour savoir ce qui est significatif, que ce bus passe moins souvent, ou est-ce qu'il y a un problème de grève, est-ce qu'il y a... Bon, vous voyez, en fait.
Y compris la nuit.
Hein? Non, il observait à la même heure. Il avait quand même une méthode un peu de sciences sociales. Là, pour
Et on en sait quelque chose depuis la venue de Déborah. À propos d'épuisement, il ne s'agit pas d'épuiser le sujet. Donc nous vous proposons avec Corinne de nous en tenir là, sans clore la soirée, puisqu'on l'a annoncé, elle se prolonge dans l'esprit de ce que Benjamin appelait de ses voeux quant à la manière de fabriquer une revue, c'est-à-dire de le faire en se voyant, en se parlant de manière informelle, etc. Permettez-moi de vous remercier tous les trois. d'inciter, de vous inciter à vous arracher, vous procurer les ouvrages dont nous avons parlé auprès de d'Assia, qui a la gentillesse d'assurer une présence ici pour vous permettre de faire vos achats. Comment je ne résisterai pas à l'envie de clore en évoquant les échanges qu'on a eus en amont, dont je vous remercie, et le soin que Benjamin a eu de me transmettre des publications ultérieures qui rendaient compte de ce qui s'est passé depuis la publication de votre texte de 2017, mais qui témoigne aussi du fait que vous faites feu de tout bois, vous vous êtes saisi aussi de la question du genre dans le domaine sportif, vous êtes allé voir dans un autre texte du côté des médiévistes pour voir ce qu'ils pouvaient nous apprendre, et vous, et c'est ce à quoi je voulais en venir, vous m'avez remis avec une grande confiance un texte en cours d'écriture. Eh ben, je le remettrais presque à Daniel, comme un élément de génétique littéraire appliqué au droit. Voilà, mais j'étais très...
L'éditeur va changer de dire, Benjamin, si vous voulez actualiser votre article, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Voilà.
Ben, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien depuis Lyon. Merci Daniel, merci Benjamin, merci Michel, et merci à vous tous. Merci Corinne.